Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Les laborieuses négociations sur le nucléaire iranien sont entrées dans une phase de grande tension à la veille de la nouvelle échéance fixée au 31 mars. Dans quel camp la balle se trouve-t-elle? Est-ce encore une question de problème technique ou de volonté politique? Une rupture est-elle possible alors que l'Iran joue un rôle majeur dans les grandes crises au Moyen-Orient? Enfin, l'éventualité de lancement d'une procédure de retrait par Téhéran du traité de non-prolifération, le fameux TNP, dont une réunion est prévue prochainement à New York, est-elle une option sérieuse? Pour toutes ces questions, nos invités François Nicoulot, analyste de politique internationale et ancien ambassadeur de France à Téhéran. Bonjour.
Bonjour.
Clément Terme, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et professeur à Novantia Business School et auteur de l'Iran, la révolution invisible aux éditions La Découverte. Bonjour.
Oui, bonjour.
François Nicoulot, quel est votre état d'esprit à quelques jours de l'échéance du 31 mars et des négociations qui ont cours à Lausanne?
On est quand même dans une dynamique de succès. En tous les cas, les deux principaux négociateurs, Kerry d'un côté, donc l'Américain, Zarif de l'autre côté, l'Iranien, ont vraiment envie d'aboutir. Ça, c'est tout à fait net. Ils ont le soutien de leur hiérarchie, si je peux dire. Kerry est soutenu par Obama, qui espère quand même un succès. Succès qui ne pourra être confirmé que fin juin. Hein. C'est fin juin que l'accord sera totalement bouclé. Mais là, on est dans une étape intermédiaire. Donc, Obama a besoin de cela pour son bilan, pour passer à l'histoire, en fait. Ça pourrait être son grand, peut-être même son seul grand succès en politique internationale. Et le guide de la révolution, Ali Khamenei, qui est quand même le décideur final, même s'il est très prudent, il écoute tout le monde, il a envie lui aussi d'un succès. C'est un vieux monsieur, il se dit qu'il va partir un jour, il faudra qu'il prépare lui aussi sa succession, il voudrait pas laisser une situation impossible à régler à son successeur. Donc je crois que lui aussi a envie d'un succès.
Alors, vous parlez, François Nicoulot, d'étapes intermédiaires. De quoi est-il question réellement ces jours-ci à Lausanne?
Il est question de se mettre bien d'accord sur les grands principes de l'accord détaillé qui doit être bouclé d'ici fin juin. Parce que cet accord nucléaire comporte un certain nombre de volets techniques complexes, puisqu'il doit traiter successivement, j'allais dire, toutes les voies qui permettent d'arriver éventuellement à la bombe. C'est ces voies qui doivent être bloquées, contrôlées, pour éviter que l'Iran, s'il lui en prenait l'envie, puisse fabriquer une bombe sans qu'on s'en aperçoive. Et donc, il y a des problèmes en matière d'enrichissement de l'uranium, en matière de retraitement du combustible usé. Ce sont les deux grandes voies vers la bombe. Hein. Grosso modo, l'uranium hautement enrichi, le plutonium pour lequel il faut un réacteur dédié à la fabrication de plutonium. Ce pourrait être le réacteur d'Arak. C'est ça, en tous les cas, qui fait peur à tout le monde. Et puis, il y a des questions techniques aussi délicates comme la recherche et le développement. Faut-il, dans la période qui va s'ouvrir, une fois que l'Iran aura accepté des limitations sur ces grandes questions, est-ce qu'il faut en plus qu'il s'interdise de faire de la recherche, de faire du développement, d'améliorer des technologies qui sont par principe dual, effectivement. Ces technologies qui permettent d'améliorer la productivité d'une industrie nucléaire civile, mais qui permettent éventuellement d'aller plus vite vers la bombe. Voilà un peu toutes les grosses questions qui se posent, qu'on résout pas maintenant. Maintenant, on définit les grandes lignes d'un accord. Et au mois de juin, on entrera dans les détails qui pourront faire mal. Il y aura encore des discussions difficiles, manifestement, jusqu'à la fin juin.
Alors, définition des grandes lignes, vous l'avez dit, François Nicoulot, avec ce souci côté américain, côté iranien, de parvenir à quelque chose. On sent tout de même que ce souhait n'est pas partagé partout. Si je me tourne vers vous, Thierry Coville et Clément Terme, en particulier par la France, on voit le Premier ministre français réclamer un accord solide, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et notre ambassadeur de France à Washington estimait que faire de la fin mars une date limite absolue est contre-productif et dangereux. On a besoin de tout notre temps pour boucler un accord complexe. Votre sentiment, Clément Terme?
Oui, la France a toujours eu une position en pointe sur la question du nucléaire iranien depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. Cela s'explique d'abord par la relation privilégiée entre la France et les pays arabes de la péninsule arabique, notamment l'Arabie Saoudite, qui a une position très hostile vis-à-vis du programme nucléaire iranien. Et la France insiste sur le risque de prolifération nucléaire au Moyen-Orient. La seconde raison, c'est la relation privilégiée avec l'État d'Israël, qui perçoit le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle pour sa survie. Et on a vu que le Premier ministre israélien a fait sa campagne électorale pour parvenir à sa réélection en tant que Premier ministre de l'État d'Israël sur la menace iranienne, la menace islamiste. Donc c'est vrai que la France est très sensible aux arguments de ces deux pays et n'a pas eu la réflexion stratégique qu'ont eu les États-Unis de réévaluer leur stratégie moyen-orientale sur des bases plus réalistes. C'est ce qu'a fait le président Obama aux États-Unis. Il a considéré que l'Iran est un acteur incontournable au Moyen-Orient et que le principal risque pour la sécurité régionale n'était plus le programme nucléaire iranien, mais la stabilité de la région. Donc Obama a décidé de coopter l'Iran pour régler les crises de Syrie et d'Irak, notamment. Et le retrait d'Afghanistan a également joué un rôle dans la décision d'Obama de parvenir à un accord avec l'Iran, ce qu'a évoqué l'ambassadeur Nicolo. Donc il y a cette vision à long terme des États-Unis, alors que la France est restée sur les positions finalement de l'administration Bush et continue en fait à percevoir le programme nucléaire iranien comme la principale menace pour la sécurité régionale.
Thierry Coville.
Honnêtement, on est très surpris dans les spécialistes de l'Iran de la position française. Parce que ce qui gêne quand même beaucoup, c'est qu'on a l'impression, c'est qu'elle est assez idéologique. On a l'impression qu'ils s'intéressent pas vraiment à la réalité iranienne. Et personnellement, en tant que chercheur, c'est moi qui me gêne. Moi, qu'on me convainque, si vous voulez, si je suis en face des gens qui parlent persan, qui ont été en Iran, qui ont une vraie connaissance du terrain, qui peuvent me convaincre effectivement que l'Iran est dangereux, etc. Ok. Mais là, on est face à des gens qui ont vraiment un discours complètement plaqué. Et quoi que dise l'Iran, c'est dangereux, si vous voulez. Quand je lis des articles dans la presse française, si vous voulez, sur le danger que représente l'Iran en Irak, par exemple, l'influence iranienne en Irak, faut quand même un petit peu se calmer. On rappellera quand même pour les auditeurs que si l'Iran n'était pas intervenu en Irak en juillet, quand l'État islamique a commencé à déferler en Irak, on ne sait pas où on en serait aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a une position française. On peut comprendre nos intérêts avec nos liens notamment commerciaux avec l'Arabie Saoudite, nos liens stratégiques avec Israël, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'idéologie. Il y a le principe que de toute façon, l'Iran, on peut pas leur faire confiance. Et je pense qu'on est vraiment, excusez-moi, on est complètement à côté de la plaque en tant que chercheur en sciences sociales par rapport à la réalité iranienne. Si on regarde le pays dont l'influence quand même peut stabiliser la région, je pense pas que c'est du côté de l'Arabie Saoudite qu'il faut se tourner. Bon, moi là, je suis allé en Iran cet été faire une recherche sur un petit peu le secteur privé iranien. Qu'est-ce qu'on voit dans la société civile iranienne? Les questions de diversité religieuse, elles sont même plus posées. On accepte complètement les autres religions. On accepte que quelqu'un soit laïque en Iran. La tolérance, la nécessité de la démocratie. Alors c'est vrai que c'est pas une démocratie en Iran, mais si vous voulez, ce qu'on voit dans la société civile, le niveau d'éducation, la relation homme-femme, toutes ces valeurs, elles sont en train d'arriver en Iran, si vous voulez. Donc là, il faudrait peut-être que du côté de la diplomatie française, on commence à se poser des vraies questions. Je sais, bon, il faut raisonner en termes stratégiques, mais je veux dire, la question de l'influence de l'Iran dans la région et de ses idées et de ses valeurs, à mon avis, c'est peut-être beaucoup plus important que ces questions évidemment très graves de nucléaire iranien.
Donc, idéologie de la part de la France, est-ce que la réélection de Benjamin Netanyahou en Israël change quelque chose, François Nicolo?
J'allais dire pas fondamentalement, parce que c'est le même qui est toujours là, il a les mêmes idées sur l'Iran, les Français le connaissent bien. Sur la question iranienne, c'est vrai que les Français ont essayé d'aider les Israéliens, à l'heure qu'il est, même les Français ont le sentiment quand même que Netanyahou va un peu trop loin. Là, il y a eu des propos qui ont été tenus par des diplomates anonymes et qu'on peut assez aisément reconnaître, disant que était très difficile de s'aligner sur les positions israéliennes qui ne sont vraiment pas réalistes. Voilà, ils demandent trop et bon, les Français apparemment se situent un peu à mi-chemin à l'heure qu'il est entre les positions très dures des Israéliens qui, par exemple, demande que l'Iran démantèle complètement son programme d'enrichissement de l'uranium, ce qui est absolument impensable. Enfin, les Iraniens ne renonceront jamais à ce programme. Ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Et ensuite, les Américains ont fait d'ailleurs, autour de 2010-2012, l'évolution mentale. Parce qu'eux aussi, pendant très longtemps, d'ailleurs c'est pour ça que ça fait 10 ans qu'on en parle, pendant très longtemps, l'Occident a demandé que l'Iran démantèle l'essentiel de son programme civil. Hein. On a vu au bout de 10 ans que ça marchait pas, quoi, que c'est vraiment on n'arriverait jamais. Donc il y a eu une révolution dans la tête des Américains qui ont dit bon, il faut quand même accepter un certain nombre de choses. Ce programme, il faut l'encadrer, il faut le limiter, mais on ne peut pas l'interdire totalement. Alors après cela. J'allais dire, c'est un problème de curseur. Où est-ce qu'on fixe le plafond? À quelle hauteur on fixe le nombre de centrifugeuses qui enrichissent l'uranium, technologie sensible? Alors, les Américains ont un chiffre en tête, les Français en ont probablement un autre. Voilà. Mais ça, c'est les choses qui vont se mettre en place à partir de maintenant et qui vont s'affiner progressivement jusqu'à la fin juin, date limite de la négociation qui est quand même, je le rappelle, je termine là-dessus, la négociation de la dernière chance. On a prolongé à plusieurs reprises la négociation qui a commencé donc en 2013 et cette fois-ci, elle ne sera pas prolongée. Donc, pour le paquet final, détaillé, c'est fin juin ou jamais.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, j'en reviens à la question des actuelles négociations dont la date butoir est fixée au 31 mars. On l'a bien compris, il y a deux volets. Il y a d'une part le volet nucléaire, bien évidemment, et puis l'autre volet, c'est aussi les sanctions. L'Iran a des exigences. Les pays qui négocient à Lausanne ont les leurs aussi. Où est-ce qu'on en est, alors Thierry Coville, sur cette question cette question des sanctions?
Si vous voulez, c'est toujours facile de dire toujours le point de vue. Quand je dis le point de vue effectivement français, effectivement, on va dire que l'Iran a des exigences. Mais enfin, vous lisez l'accord intérimaire de novembre 2013, hein, moi je l'ai lu, il est écrit noir sur blanc, s'il y a un accord final, les sanctions seront levées. C'est écrit. Donc les Iraniens disent, bah écoutez, voilà, que les sanctions soient levées s'il y a un accord final. Alors évidemment, on comprend bien la tactique malheureusement française, qui consiste à dire, et on l'a lu, c'était explicitement dit, gardons des sanctions en place, en oubliant quand même le coût moral, va dire le principe moral, c'est-à-dire le poids que ça pèse sur la société civile iranienne. Bon, gardons ces sanctions en place, on passe là-dessus, pour avoir un moyen de pression sur l'Iran. Et ça, c'est la position française. Malheureusement, je pense que c'est presque scandaleux. Alors, du côté américain, ils disent la même chose. C'est un peu plus, quelque part, facile. Obama peut dire, effectivement, il y a une partie des sanctions, celles qui pèsent le plus sur l'économie iranienne, c'est les sanctions sur les banques. Donc, elles ont été votées par le Congrès américain, qui est le seul qui peut, effectivement, les éliminer. Donc, Obama dit, écoutez, moi, je peux les suspendre, il a le droit de les suspendre, mais par contre, on verra dans quelle date, on va dire dans 5 ans, etc. Le Congrès se réunira pour examiner s'il peut lever, effectivement, les sanctions, ce qui donne aussi, entre parenthèses, le moyen aux États-Unis de garder un moyen de pression sur l'Iran. Donc, il y a un débat là-dessus sur au rythme auquel seront levées les sanctions. Mais si vous voulez, bon, là, je pense que du côté européen, il y a vraiment un problème, hein, c'est que on a mis en place des sanctions à partir de 2010 et on a suivi la logique américaine. Bon, on l'a fait en 2010. Là, est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça? C'est pas du tout dans la tradition européenne. Hein. Les Américains sont habitués avec Cuba, etc., à mettre des sanctions pour avoir la démocratie, etc. Là, je pense que de le dire en plus, de l'afficher du côté français, je pense que ça pose un vrai problème.
Mais certaines sanctions ont commencé d'être levées, vous l'avez dit, notamment les sanctions sur le pétrole. Et la question pétrolière, elle était essentielle en ce moment, avec la baisse des prix du pétrole qui place l'économie iranienne dans une situation qui est encore plus compliquée qu'auparavant, Clément Terme.
En fait, les sanctions sur le pétrole n'ont pas été levées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas poussé l'embargo plus loin. Ils n'ont pas demandé aux États qui importaient du pétrole iranien de ne plus en importer. Donc ils ont cessé d'accroître, si vous voulez, la pression sur l'Iran, sachant qu'un embargo sur le pétrole, en droit international, peut être considéré comme un acte avant la déclaration de guerre. Donc en fait, on est dans une situation de conflit pour l'instant avec l'Iran, même si c'est vrai qu'on parle d'un accord. On reste dans une zone de tension très très forte, comme l'a rappelé Thierry, notamment avec des sanctions unilatérales hors du cadre des Nations Unies. Donc c'est vrai que c'est dans la tradition américaine, mais pour l'Europe, c'est vraiment une nouveauté, et c'est dans une durée aussi longue, même s'il y a eu des précédents évidemment auparavant, mais en tout cas la France et l'Angleterre ont été en pointe sur cette question. Et c'est vrai qu'on a eu une évolution de la position française, qui était plus proche de la Russie et de la Chine à l'époque de la présidence Chirac, vers un alignement de la position française vers les États-Unis et l'Angleterre. Mais pour l'Iran, donc dans le discours selon lequel les sanctions ont fonctionné, l'idée est de dire que finalement l'économie iranienne est à genoux, que l'Iran est en position de faiblesse et que l'Iran doit signer en fait et accepter les compromis puisque l'Iran ne comprend que la force. Donc ça, c'est la position qu'on a ici. Mais vu d'Iran, c'est vrai que si on analyse à partir des données de la réalité économique iranienne, il y a des problèmes de mismanagement, il y a beaucoup d'autres problèmes qui rentrent en ligne de compte. Et finalement, c'est quand même à la fois les sanctions unilatérales américaines et européennes qui ont le plus pesé. Donc ce n'est pas la légalité internationale qui a mis l'économie iranienne dans une telle difficulté. Donc là, il y a un problème de cohérence au niveau du discours et de respect des normes internationales, puisque, par exemple, on voit des diplomaties occidentales qui suivent, dans une large mesure, hein, même s'il y a certaines divergences, la position d'Israël, qui est un État qui ne respecte pas lui-même le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité. Donc là, on voit qu'il y a un double standard occidental, et ça, ça peut affecter le soft power, notamment de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, au Moyen-Orient, puisque, au niveau de la région, on va considérer, finalement, que les occidentaux utilisent, instrumentalisent le droit international en fonction de leurs intérêts géopolitiques. Et là, au-delà du cas iranien, je pense qu'il y a, il y a un problème de cohérence des diplomaties, même si aucune diplomatie n'est cohérente. Je pense que, en tout cas, en termes d'image, la position en pointe que peuvent avoir certains pays occidentaux peut leur coûter cher dans la région.
François Nicolau.
Oui, il y a trois grandes catégories de sanctions. Il y a les sanctions des Nations Unies, tout d'abord, qui ont été votées par le Conseil de sécurité entre 2006 et 2010. Et il y a eu ensuite les couches supplémentaires qui ont été mises à la fois par les Américains et par les Européens. Les Européens, effectivement, il faut le voir dans les traités européens, les sanctions sont prévues. C'est un dispositif, c'est une arme normale mise à disposition des Européens pour mener leur politique étrangère si nécessaire. Les Européens font très attention à placer leurs sanctions unilatérales, disons, en appui des sanctions des Nations Unies. C'est intéressant quand on lit le texte des sanctions votées par le Conseil de l'Union Européenne, ils citent toujours en tête les sanctions des Nations Unies et c'est en sorte, pour les compléter, pour les renforcer, que l'Europe met en place des sanctions. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, évidemment, les Iraniens demandent la levée rapide de toutes les sanctions. Ce qui est dans l'accord de novembre 2013, c'est quand même pas la levée immédiate des sanctions. Même à l'époque, les Iraniens acceptaient l'idée d'une levée progressive au fur et à mesure de l'application de l'accord. Mais évidemment, le jeu, c'est pour les Iraniens d'obtenir des levées le plus rapidement possible, hein, pour avoir un ballon d'oxygène, et pour les autres, évidemment, de retarder le plus longtemps possible en disant « oui, mais il faut que la confiance soit rétablie, la confiance, ça prend du temps, on n'est pas pressé ». Ce qui était assez intéressant, d'ailleurs, en règle générale, au-delà du cas iranien, c'est que les sanctions sont beaucoup plus faciles à mettre en place qu'à lever. Une fois que les sanctions sont en place, de nouveaux équilibres s'installent. Les gens qui ont fait tellement d'efforts pour bâtir ce système, voilà, ça leur fend le cœur de devoir de démanteler cela. Et le grand argument, c'est toujours « oui, mais si on démantèle les sanctions, après on pourra plus les rétablir. Donc il faut tenir le plus longtemps possible. » C'est ce qu'on a vu dans l'affaire irakienne. C'est ce qu'on a vu, moi je cite toujours ce cas qui est assez fascinant, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était sous un système de sanctions terrible. Hein, la population était affamée, la population allemande. Les sanctions contre l'Allemagne n'ont pas été levées en novembre 1918, date de l'armistice, elles ont été levées en juillet 1919. Voilà, ça montre la difficulté. Avec ce genre d'arguments, oui, mais voilà, on ne sait jamais, vaut mieux les garder en place le plus longtemps possible, ça a entraîné probablement des centaines de milliers de morts, hein, compte tenu de l'état de sanitaire de la population allemande. Les morts qu'il y a eu en Irak aussi, qu'on a beaucoup reproché aux sanctions qui avaient été mises en place contre l'Irak. Là encore, on avait mis des sanctions qu'on n'arrivait plus à supprimer et on n'arrivait plus à avoir l'unanimité du Conseil de sécurité pour lever les sanctions. Voilà, on est dans une difficulté de ce genre aujourd'hui avec l'Iran.
Et alors pour terminer cette première partie d'émission, Thierry Queville, globalement, les sanctions, un vrai rôle ou pas dans la question iranienne ?
Oui, tout à fait. C'est reconnu par tout le monde en Iran, c'est-à-dire que tout le monde le dit, hein, les sanctions ont un impact énorme sur l'économie iranienne. Moi, j'ai visité des entreprises qui ont arrêté de fonctionner. C'est assez simple. Il y a deux canaux qui ont fonctionné en Iran. L'Iran ne peut plus exporter maintenant que 50% de ce qu'ils exportaient en exportation de pétrole. Et depuis l'accord de novembre 2013, tout le monde fait attention que ça reste, hein. Ils ont pas pu exporter plus. Donc, 50% de pétrole exporté en moins pour l'Iran. Le pétrole, c'est 80% des exportations de l'Iran et 55%, plus de 50% des recettes budgétaires. Donc, en gros, ils ont 25%, le quart des recettes budgétaires en moins. Deuxième canal qui a beaucoup joué en Iran, c'est les sanctions financières et surtout les sanctions américaines. Les Américains, et je pense, là de nouveau, on quand même peut critiquer l'Europe et les gouvernements français de Sarkozy et de Merkel et en Angleterre, qui ont laissé le gouvernement américain venir en Europe, menacer les banques françaises et banques européennes en leur disant comme ça, et on me l'a confirmé, arrêtez de travailler avec l'Iran, vous n'aurez plus de marché aux États-Unis.
Donc bien les Américains soucieux de garder le contrôle
l'affaire
très fortement.
L'affaire BNP Paribas,
Géopolitique, nous retrouvons nos invités François Nicolau, Clément Terme et Thierry Queville dans quelques instants. À toutes.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les négociations sur le nucléaire iranien à la veille de la nouvelle échéance fixée au 31 mars. Nous retrouvons nos invités, François Nicoulot, analyste de politique internationale, ancien ambassadeur de France à Téhéran, Clément Terme, chercheur associé à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et professeur à Novantia Business School. Clément Terme, je me tourne vers vous. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, l'actualité en Irak, en Syrie, où on connaît le rôle de Téhéran dans ce qui se passe, est-ce que l'on peut dire finalement que l'Iran est aujourd'hui dans une position de force inégalée ?
En fait, il y a deux manières de voir la présence iranienne dans son environnement régional, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afghanistan et au Pakistan. La première est de dire que finalement l'Iran peut être un partenaire dans la lutte contre Al-Qaïda, contre Daesh, contre l'extrémisme, le salafisme djihadiste. Mais il y a aussi cette perception qui est dominante ici en France de dire que finalement, si on renforce la puissance régionale de l'Iran, celle-ci risque de se retourner contre nous. Donc, à court terme, l'administration Obama semble avoir tranché en faveur d'une coopération tactique non dite avec la République islamique d'Iran. Mais aux États-Unis également, il y a un débat en interne, notamment avec les déclarations du général Petraeus, qui a déclaré récemment que le général Soleimani, qui est le chef de la force Rhodes, donc en Irak, avait contribué à l'assassinat de soldats américains au moment de l'occupation militaire de l'Irak. Donc on le voit, il y a aussi un passé qui ne passe pas entre l'Iran et les États-Unis, avec un contentieux au niveau régional et une mémoire, et donc assez récente, d'une hostilité entre l'Iran et les États-Unis dans la région. Il y a vraiment ces deux visions, mais là où tout le monde va tomber d'accord, c'est pour dire que l'Iran est une puissance régionale incontournable et qu'on le veuille ou non, il faut traiter de l'Iran soit comme partie de la solution, ou soit comme partie du problème, comme le dit par exemple Israël ou les néoconservateurs américains. Mais en tout état de cause, on ne peut pas rester dans le déni de la puissance régionale iranienne, ce qui a été le cas pendant de nombreuses années. Maintenant, la question c'est, est-ce que l'Iran est une puissance régionale par défaut, en raison de la présence d'États faillis à ses frontières, je pense à la Syrie, au Yémen, à l'Irak, à l'Afghanistan, qui sont vraiment des États dans une situation d'anarchie. Et donc l'Iran profiterait finalement du chaos moyen-oriental pour affirmer sa puissance en tant qu'État ancien et qui jouit d'une relative stabilité. Ou est-ce que finalement l'Iran peut contribuer à la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il peut être un partenaire de longue durée? Et je pense que c'est une question qui reste ouverte. On n'a pas encore tous les éléments pour répondre. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que du point de vue de la République islamique d'Iran, on a vraiment une promotion à l'intérieur du pays maintenant des actions de militaires comme le général Soleimani, et c'est nouveau. Avant, dans la République islamique d'Iran, même à l'époque de la guerre Iran-Irak, on mettait pas en avant le rôle de généraux ou d'acteurs militaires. C'était toujours la victoire de l'imam Khomeini ou la victoire de religieux. Donc on voit aussi une certaine militarisation en Iran. Et c'est vraiment une question nouvelle. Et le fait que les médias iraniens mettent en avant des figures militaires en termes de propagande, c'est un élément intéressant et nouveau de ce qui se passe en Iran.
Tout cela a lié avec la question des passes d'Aran, c'est cela que je dois entendre Clément Terme, et la puissance que l'on connaît, Thierry Gouville.
Oui, mais si vous voulez, je mettrai un petit bémol, parce que c'est aussi ça, dans la diabolisation de l'Iran, il deviendrait un régime militaire dominé par les passes d'Aran. Je pense que la communication qui est faite, Soleimani, c'est vrai, c'est très frappant, dans la presse iranienne, il y a son portrait, ce qui n'est pas du tout dans la tradition iranienne. Bon, je pense qu'il y a une volonté du régime de quand même rehausser l'image dans la population des passes d'Aran, qui ont quand même été utilisées massivement pour la répression lors des manifestations de 2009. Et d'ailleurs, on l'entend dans la publicité iranienne. En Iran, quand ils sont retrouvés à Daesh, à leurs portes, etc., la population avait peur. Quand même, Daesh, ils assassinent les chiites quand ils les rencontrent. Donc la population en Iran avait très peur. Donc ils sont reconnaissants d'avoir une force, effectivement les passes d'Aran, qui ont été mobilisés pour aller en Irak bloquer Daesh. Donc si vous voulez, je pense que le régime qui réfléchit à tout ça, etc., a jugé que pour rehausser l'image des passes d'Aran dans la population, c'est pas mal de jouer la carte de Soleimani. Mais je pense qu'il faut rester prudent sur effectivement une militarisation du pouvoir en Iran. Les passes d'Aran, c'est une force en Iran, mais l'Iran, c'est un régime assez particulier, avec une multitude des pouvoirs. Et dès qu'il y a un pouvoir qui risque d'avoir tous les pouvoirs, on lui coupe l'herbe sous les pieds. Par exemple, le gouvernement de Rouhani est plutôt contre contre le développement de l'influence économique des Pasdaran dans la, donc il y a des tensions.
Qui est réelle et...
Qui est réelle, qui est arrivée. Ils ont pas mal d'entreprises, etc. Mais disons, le gouvernement Rouhani veut calmer ça parce qu'il veut plutôt le développer le secteur privé. Il y a aussi un équilibre des pouvoirs en Iran. Donc, je pense pas qu'on puisse parler d'un régime complètement prétorien, complètement dominé par les Pasdaran. Je pense que c'est plus compliqué que ça.
François Nicoulot, je me tourne vers vous. On en est où pour bien comprendre entre Washington et Téhéran? On peut pas parler d'alliance, mais on n'en est plus non plus à une situation de guerre froide que les deux pays ont connue depuis 1979. Alors, où se situe le curseur?
En effet, ce serait plutôt une coopération froide plutôt qu'une guerre froide, une espèce d'entente froide. Là encore, quand on dit Téhéran-Washington, il faut voir que ce sont des pouvoirs éclatés. Hein. On voit bien, on l'a dit tout à l'heure, que le guide de la révolution, Ali Khamenei, le gouvernement iranien d'un côté, Obama, ses équipes à la Maison-Blanche, Kerry de l'autre côté, veulent un accord, il faut bien le dire, avec une négociation qui porte exclusivement sur les questions nucléaires. Ça, c'est tout le monde est bien d'accord pour ne parler que de cela. Mais chacun espère, bien entendu, que si on arrive à cet accord final fin juin, il y aura un changement d'ambiance, il y aura un changement d'atmosphère, on entrera dans un cycle certainement de détente, ce qui peut déboucher sur une entente et un jour sur une coopération. C'est la vision que tout le monde a en tête. Mais des deux côtés, il y a des gens qui sont pas d'accord, on le sait bien. Hein. Le Congrès américain d'un côté, et on l'a bien vu, qui essaie de torpiller cet accord. Est-ce qu'il y parviendra? Est-ce qu'il réunira pour torpiller l'accord, la majorité des deux tiers de l'ensemble du Congrès qui permettrait de surmonter les vétos que Obama pourrait lui-même opposer à des décisions donc négatives du Congrès. C'est un jeu compliqué. Du côté iranien, les choses sont mieux tenues, il faut dire. Le guide de la révolution est arrivé à quand même à calmer tout le monde, malgré une rhétorique toujours très anti-américaine. On sent poindre dans les discours son envie d'aboutir à un accord, c'est ce que disait. Il a envie de conduire la République islamique vers des eaux plus apaisées. Hein. Et à l'heure actuelle, les gens qui sont opposés à cet accord, car il y en a en Iran, hein, voilà, ces gens-là pour le moment se taisent. Khamenei est arrivé à les calmer. Ils se réveilleront et bien entendu, s'il y a des difficultés. Hein. Si on n'aboutissait pas à l'accord attendu fin juin, là, ça sera effectivement, au contraire, ils vont exploser, ils vont essayer de reprendre la main, ils sont en embuscade en quelque sorte, et il est certain que Rouhani se trouverait alors mis en très très grande difficulté.
En tout cas, Rouhani n'a pas affaire à des parlementaires iraniens qui, comme les parlementaires américains, en l'occurrence des républicains, il y en a eu 47, ont écrit à Téhéran pour dire que au moment d'un changement de présidence, eh bien, tout accord avec l'Iran caduquerait du jour au lendemain. Comment on peut qualifier ce qu'ont fait les républicains américains? C'est de l'irresponsabilité, Thierry Queville?
Oui, c'était presque drôle, parce que je crois que j'ai lu un article dans le New York Times qui disait que les sénateurs, un ton condescendant vis-à-vis des autorités iraniennes, disaient « vous connaissez peut-être pas les complexités de la constitution américaine ». Le journaliste disait « manifestement, les sénateurs américains ne connaissent pas les complexités de la constitution iranienne, parce que, comme ça vient d'être rappelé, on a plusieurs pôles de pouvoir, il y a le guide, etc. Donc, c'est pas sérieux, quoi. C'est plus des questions de guerre intérieure entre Obama et les républicains. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir que sur des sujets aussi importants en politique étrangère, ils prennent le risque d'apparaître en dehors du consensus, quoi. Pour revenir, quand on lit la presse iranienne, ce qui est vraiment frappant, moi je sais pas ce que pense le guide, comme je disais, c'est très très compliqué. Par contre, il n'y a pas une déclaration sur les négociations en cours qui ne fait pas référence au fait qu'il reçoit régulièrement les négociateurs iraniens et qu'il participe directement. Et ça, c'est effectivement un signe très clair qu'il veut participer à la victoire et il veut montrer que si il y a un accord, il y aura participé, parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une lutte politique qui se prépare de l'après-accord en Iran. Le guide, qui est d'abord un homme politique en Iran, plutôt qu'un religieux, il a bien réfléchi à ça, que s'il y a un accord, il veut surtout pas être celui qui récupère les lauriers comme sera Rouhani, il pourra dire j'ai négocié l'accord, donc les conservateurs qui le suivent le plus dur seront toujours là, et on voit très bien aussi qu'il y a des manifestations des plus durs en Iran qui sont en train de dire aux plus modérés, même s'il y a un accord, ne croyez pas que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Hein, je sais qu'il y a un conservateur modéré très connu en Iran, qui s'est quand même fait carrément agresser, alors qu'il venait de donner une conférence par sans doute des milices liées aux plus durs. Donc ça voit très bien que en fait les plus durs en Iran sont en train quand même de poser des jalons. Et je pense que Khamenei va jouer un rôle important là-dessus en disant que si jamais il y a un accord, il ne faut pas que les conservateurs modérés et les réformateurs croient que tout sera ouvert en Iran. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment modérer quand on nous dit que l'Iran va devenir le gendarme du Golfe avec les Américains. Bon, il faut regarder la réalité politique iranienne. Ils veulent coopérer sur des dossiers quand c'est leur intérêt. Il y a plusieurs forces politiques en Iran. Ça va surtout pas être un renversement d'alliance. C'est un changement d'air, mais en Iran, l'environnement politique, à mon avis, la base toujours de ce qu'il faut regarder, reste. Il y en a certains qui restent très très opposés à une relation ouverte avec les États-Unis. Je vais vous dire, un général des Passes d'Arange, il y a 3 semaines, il a dit notre rôle, nous, c'est de nous battre contre les Américains, c'est pas de négocier avec eux. Donc voilà, c'est assez clair.
Changement d'air, est-ce qu'on peut imaginer, puisque vous évoquez les uns et les autres fin juin comme vraiment la date importante, 31 mars étant une échéance intermédiaire, on a bien compris aussi qu'il y avait urgence, hein, côté américain comme côté iranien, finalement, de parvenir à un accord. Est-ce qu'on peut imaginer ou craindre que les républicains américains jouent à nouveau avec les sanctions d'ici au mois de juin, Clément Terme ?
Oui, tout à fait, puisque les sanctions américaines sont une loi extraterritoriale, donc qui sont appliquées par les autres pays, mais c'est des lois du Congrès américain. Le président Obama, comme ça a été dit, ne peut les suspendre que pendant la durée de son mandat. Donc il ne peut pas garantir que son successeur fera de même. Donc évidemment qu'il y a un jeu des radicaux des deux côtés. Il n'y a aucune garantie que les modérés dans les deux camps l'emportent. Et du côté iranien, l'enjeu nucléaire est à resituer aussi dans le contexte de l'élection du président Rouhani en 2013 comme modéré, entre guillemets. Et je dirais qu'il a dépensé toute son énergie pour régler cette question du nucléaire. Et du coup, il n'a pas pu se battre, comme le disait Thierry Coville, sur le front de la justice, des droits de l'homme. Donc il n'y a pas eu d'évolution significative en termes de pratique de la peine de mort ou de progression du droit des femmes en Iran, etc. Donc on voit que le président Rouhani a fait des déclarations très positives sur l'égalité homme-femme, etc., mais qui ne sont jamais suivies des faits. Donc il y a aussi cet espoir en Occident qui, à mon avis, est un peu vain, hein, de penser que si on signe avec Rouhani, cela va permettre aussi de le renforcer sur la scène interne et par un effet boule de neige, si vous voulez, au final, de lui permettre de renverser le rapport de force avec les radicaux sur les questions de justice islamique, etc. Mais je pense que là, le contexte politique interne et la constitution iranienne ne lui donnent pas autant de prérogatives. Donc il ne faut pas non plus être idéaliste et penser que s'il y a un accord avec l'Iran, on va rentrer dans un cercle vertueux. Au contraire, je pense que le calcul du guide est de soutenir un accord comme cela a été dit, tout en préservant la nature du régime iranien, qui est quand même, à mon sens, une sorte de pétrothéocratie, on pourrait dire. Et il ne veut pas que la signature de l'accord de Genève ne signifie la boîte de Pandore et la fin du régime islamique et la fin de la révolution islamique. Donc je pense qu'il faut distinguer vraiment les deux, même s'il y a un lien, puisque l'explication du régime de sanctions, par exemple, ce régime ne date pas du programme nucléaire, il date de la révolution islamique. Donc dans la question du nucléaire, en arrière-plan, il y a le contexte régional, comme on l'a dit, mais il y a aussi la République islamique elle-même. Et le guide, pourquoi il a été si prudent dans les négociations depuis 10 ans, c'est aussi parce qu'il pense qu'en Occident, ce qu'on veut, c'est utiliser le nucléaire pour renverser le régime. C'était à l'époque de l'administration Bush, notamment, une préoccupation qui pouvait se justifier, puisque à l'époque, officiellement, la politique des États-Unis était de renverser le régime de la République islamique. Mais en tout cas, on peut démontrer ça facilement, parce que si on remonte au temps du Shah, finalement, le programme nucléaire iranien ne posait pas vraiment de problèmes à l'époque du Shah, même s'il avait la même ambiguïté. À ce moment-là, la France construisait une centrale nucléaire en Iran, l'Allemagne de même. Donc, ce qui nous préoccupe aujourd'hui ne nous préoccupait pas à l'époque.
Tout et simplement ça, parce que, juste pour nos auditeurs, le Shah était un allié des Occidentaux.
C'est exactement, et la République islamique est un régime perçu comme hostile à nos intérêts, à la fois dans la région et sur la scène internationale, parce que c'est un régime qui conteste l'ordre international. Et on peut le comprendre quand on voit l'attitude du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant la guerre Iran-Irak, qui n'a jamais condamné l'agression de l'Irak contre l'Iran. Il y a des raisons historiques qui sont fondées. Mais en tout cas, cette nature contestataire de la République islamique fait partie de l'équation, puisque si l'Iran accède à la souveraineté nucléaire, ce qui est l'objectif affiché par Téhéran et qui est ambigu, finalement, cela pourrait remettre en cause les relations entre les États dotés de l'arme nucléaire et les États non dotés. Et c'est ça qui gêne la diplomatie française, je pense, en particulier. C'est qu'elle perçoit une menace pour le régime de non-prolifération en termes de droit international.
Alors, vous faites ma transition. Merci, Clément Terme, pour cette question qui s'adresse à vous, François Nicoulot. C'est l'éventualité du lancement d'une procédure mesure de retrait par Téhéran du traité de non-prolifération, le fameux TNP, dont une réunion est prévue prochainement à New York. C'est une option sérieuse ? C'est une carte, en tout cas, dont dispose Téhéran.
C'est une option qui est en arrière-plan, si vous voulez, hein, de toutes les négociations, qui n'est pas d'actualité en ce moment. Hein. Très manifestement, l'Iran, en ce moment, n'évoque pas du tout la possibilité d'un retrait du traité de non-prolifération, mais il pourrait la faire ressurgir si, par exemple, il était frappé de sanctions supplémentaires par le Congrès américain, si on ne parvenait pas à un accord, et si, faute d'accord, renaissait du côté occidental, du côté américain, du côté israélien, la tentation de frapper l'Iran, de détruire les installations nucléaires qui inquiètent l'Occident. Il est certain que si un jour, là on est quand même dans une situation très hypothétique, il y avait des frappes sur ces installations, à ce moment-là, il est plus que probable que l'Iran ferait le choix de se retirer du TNP, puisque ce serait quand même une situation paradoxale de voir des installations qui, rappelons-le, sont sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui serait frappée par un autre membre du traité de non-prolifération, ce qui paraît un peu curieux quand on est au sein d'un traité, en principe, d'avoir un minimum de solidarité dans l'hypothèse américaine. Si les Israéliens étaient amenés à frapper, encore plus étonnant, ce serait un pays qui n'a même pas signé le TNP, qui n'a même pas pris les engagements contenus dans le TNP, qui frapperait un pays qui, lui, a pris un certain nombre d'engagements. Après cette vision un peu apocalyptique, je m'empresse de dire qu'on n'en est pas là aujourd'hui. La dynamique actuelle, c'est plutôt vers la conclusion d'un accord fin juin. Mais on sera peut-être amené à en reparler. Cette affaire du TNP est évidemment centrale. L'Iran, il faut le rappeler, a signé le TNP, l'a ratifié, l'a fait entrer en vigueur en 1970. C'était l'époque du Shah. Et c'était un des premiers. Il a donné le bon exemple, véritablement. Et par la suite, quelles qu'étaient toutes les difficultés que l'Iran a eu avec la communauté internationale, jamais il n'a formellement décidé de quitter le TNP, ou comme l'a fait la Corée du Nord par exemple à un certain moment, de chasser les inspecteurs de l'AIEA. L'Iran a été pris sur une ou deux affaires, un petit peu la main dans le sac, dans des affaires délicates. L'Iran n'a jamais pris une décision de ce genre. Voilà, donc un des signataires originels du TNP à mettre en contraste par exemple avec la France, hein, qui n'a adhéré au TNP, il faut le rappeler, très tardivement, en 1992. Ça a été très très long pour la France. Hein. Mais peut-être comme les derniers convertis, en quelque sorte, ça explique peut-être aussi notre zèle non proliférant, là, pour avoir été si longtemps un peu en marge de tout cela. Voilà, on veut démontrer à quel point on est sérieux en matière de non-prolifération. Ça explique un peu notre position dans l'affaire iranienne. On se pose aujourd'hui un peu comme les gardiens du temple de la non-prolifération.
Alors, en tout cas, et pour conclure cette émission, 31 mars, c'est dans quelques jours. Et ce que je sens, c'est que, ce que vous avez dit, François Nicolau, étape intermédiaire, rendez-vous fin juin avec cette question. Et si fin juin, il n'y avait pas d'accord, est-ce que c'est la guerre ?
Ce qu'on sent en Iran, ce que je vous l'ai dit, c'est qu'il y a un consensus politique, notamment avec le guide. Rouhani a mis tout son capital politique pour des accords. Le guide est derrière lui, ils veulent un accord, et il y a une volonté politique, à mon avis, ce qui est très important d'avoir un accord. Du côté américain aussi, si vous voulez. Donc ça, de ce côté-là, c'est très clair. Et on va pas passer notre temps à critiquer la diplomatie française, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à mon avis, ce qui rend furieux les Israéliens, c'est que Obama et les Américains, ça fait 2 ans qu'ils discutaient avec les Iraniens. Mmh. Ils se sont rendus compte qu'il fallait dépasser les apparences. Qu'on leur dit, voilà, c'est les méchants, c'est le régime islamique. Ils ont des gens éduqués en face d'eux. Zarif a fait des études aux États-Unis. Le responsable, il y avait, dans la presse iranienne, disait, il y a eu une rencontre avec les diplomates américains et des deux Iraniens. Tout le monde avait été formé aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a une réalisation aux États-Unis qu'ils ont des gens qui réfléchissent, voilà, etc. Donc, de ce côté-là, il y a un pragmatisme, ils veulent arriver à un accord. L'autre, à mon avis, élément qui dit qu'il faut qu'il y ait un accord, c'est qu'on voit pas de scénario alternatif. Les durs en Iran n'ont pas de scénario alternatif, si ce n'est la politique du pire. Tous ceux qui sont contre l'accord ne proposent rien. Donc aussi, ce que, à mon avis, Obama joue là-dessus en disant, voilà, c'est très bien de critiquer, qu'est-ce que vous proposez à part la politique du pire?
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. François Nicolau, analyste de politique internationale et ancien ambassadeur de France à Téhéran et auteur du blog à contre-courant, au pluriel. Clément Terme, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Et Thierry Queville, chercheur à l'IRIS et professeur à Novantia Business School. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. www.radioclassique.fr. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. Demain, deuxième tour des élections départementales en France, soirée spéciale sur RFI. Il n'y aura donc pas d'édition de Géopolitique. Rendez-vous samedi prochain. En cette année du bicentenaire du génocide arménien, nous parlerons des relations entre la Turquie et l'Arménie. À très bientôt.